RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Francis Laoupo d'Africa numéro 1 et Nadir Djennad de l'agence Reuters. Au sommaire, la création de la zone de libre-échange économique, ratifiée le 21 mars dernier à Kigali par 44 États membres de l'Union africaine. À l'horizon 2022, elle devrait permettre aux échanges interafricains de connaître une progression de 16 à 60%. Mais encore faudrait-il que les disparités entre les différentes économies soient gommées et que les obstacles juridiques et politiques soient levés. En seconde partie, nous parlerons de l'élection présidentielle en Égypte. Sans surprise, on a assisté au sacre du général Abdel Fattah el-Sissi. Son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, ayant appelé à voter pour lui. Le scrutin qui s'est déroulé sur 3 jours a connu un taux de participation de 40%. 6 ans après sa création, la zone de libre-échange économique a pris effet le 21 mars dernier à Kigali. Une décision dont il faut se féliciter car elle permettra la libéralisation des échanges économiques inter-État. Cela représente un marché de plus d'un milliard de personnes et un PIB de 2500 milliards de dollars. À ce jour, seuls 44 pays ont signé l'acte de création, avec un grand absent, le Nigeria, première économie du continent. Hassan Diop, la zone de libre-échange suscite de nombreux espoirs. Et à défaut d'une intégration politique rêvée par les pères fondateurs de l'OIA, l'intégration économique s'avère vitale pour le développement du continent, mais il y a des préalables.
Il y a des préalables. C'est vrai que le président Youssoufou, qui a mené la dernière ligne droite des négociations donc, qui ont abouti à cet accord de libre-échange, a parlé d'un tournant. Moi, je parlerais plutôt d'avancée en matière d'intégration, en matière de renforcement de l'unité africaine, parce qu'il ne faut pas rêver. L'Afrique aujourd'hui, en matière de commerce mondial, c'est toujours 2%. Et en matière d'échange interafricain, je crois que c'est entre 16 et 19%. Alors, on nous dit qu'il y aura une croissance de 60%, mais c'est 60% des 16%, et non pas un boom de 60% d'échange interafricain, alors que c'est de 70% entre les pays de l'Union européenne. Il faut aussi veiller à ce que cette suppression des barrières douanières ne bénéficie pas uniquement à des investisseurs, c'est-à-dire à des capitaux extérieurs, et que ça puisse aussi générer des industries et des usines, que ça puisse favoriser des emplois. Enfin, l'autre écueil, c'est que, évidemment, si les échanges entre l'Union européenne sont à peu près équilibrés, il est certain que entre les 44 pays signataires, encore faut-il que ces accords soient aussi par la suite entérinés par les parlements de ces 44 pays, il y a quand même des disparités. Donc il est certain que les pays...
Les économies sont très inégales.
Les économies sont inégales, etc. Donc les économies les plus pauvres, eh bien, ne tireront sans doute aucun bénéfice finalement de ce libre-échange et au contraire, le paieront, ça sera plutôt à leurs dépens, si je puis dire.
On peut pas imaginer, Francis Laloupo, que justement les économies les plus fragiles soient tirées vers le haut, comme ça a été le cas au sein de l'Union européenne.
Oui, par le principe de la solidarité. À partir du moment où on crée un espace intégré, il y a les obligations et puis il y a la solidarité, évidemment, de l'espace intégré. Donc les mécanismes de solidarité, évidemment, vont bénéficier aux pays, aux économies les plus fragiles, aux pays les plus faibles, évidemment, de cet espace. Je crois que le principal enjeu, c'est d'abord renforcer, développer le commerce intra-africain. Par ailleurs, je crois qu'il y a un débat de fond qu'il faut quand même creuser, qu'il ne faut pas éviter. Je crois qu'il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui disent... Est-ce que on ne va pas trop vite en besogne? Au lieu de renforcer les organisations sous-régionales ou régionales déjà existantes, la ZEC va fonctionner par l'addition des organisations sous-régionales. Mmh. Encore faut-il, à ce moment-là, dès maintenant, mettre en place les mécanismes d'harmonisation des économies. Parce que la CEDEAO a son histoire, la SADC a la sienne. Comment arriver, évidemment, à mettre ensemble, je dirais, ces espaces? La seule addition ne suffit pas. Il faut quand même tenir compte de l'histoire de ces zones économiques déjà existantes. Et c'est évidemment l'addition à la fois, je dirais, des capacités économiques de ces organisations régionales et aussi de leur histoire, y compris politique, qui permettrait évidemment de créer un espace économique harmonieux.
Mais Nadir Djenad, comment promouvoir ces échanges inter-États sans infrastructure, parce qu'on attend toujours la création de l'axe Rabat-Le Cap et celui de l'axe Dakar-Djibouti?
Alors justement, l'un des objectifs de cette zone de libre-échange, c'est de permettre l'intensification des échanges économiques.
Sans infrastructure.
Mais ces échanges vont dégager des capitaux, d'après ce que disent beaucoup d'économistes et même certains chefs d'État, vont dégager des capitaux qui permettront donc la construction de ces infrastructures, la construction aussi d'industries nationales. Et cela sans passer par des investissements massifs étrangers et sans passer aussi par les bénéfices pétroliers. C'est-à-dire que les partisans de cet accord misent sur une intensification des échanges qui permettrait de dégager des capitaux, et ces capitaux permettront donc la construction des infrastructures, mais aussi de revoir peut-être les industries, permettre de développer certaines industries, notamment manufacturières, et aussi les bénéfices pétroliers.
Libre circulation des biens et des personnes. Or, à propos de libre circulation des personnes, on voit que toutes les zones sont inégales.
Sont inégales, effectivement, oui, parce que cet accord de libre-échange, pour l'instant, se borne à des échanges de marchandises, de services, etc., mais il n'est pas encore question de libre circulation des personnes. Et d'ailleurs, dans certaines sous-régions, notamment en Afrique centrale, on voit que les accords de libre circulation, notamment des personnes, ne sont pas appliqués, à commencer par la Guinée équatoriale, qui est complètement paranoïaque, par exemple, par rapport à l'égard des Camerounais. Ce pays a peur d'être envahi. Et puis, les économistes, c'est vrai, africains, sont partagés sur, je dirais, les résultats à terme de cet accord de libre-échange. On a parlé de l'Union européenne, mais lorsque les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne, il a fallu que ceux qui constituaient déjà le socle de l'Union européenne mettent la main à la poche pour mettre à niveau ces nouveaux entrants, ces nouveaux pays. Et je vois mal aujourd'hui, sur la scène africaine, des pays aujourd'hui capables de financer le développement de pays plus pauvres qu'eux.
On voit déjà avec le grand absent, le Nigeria.
Le Nigeria, voilà. Donc, première difficulté de taille.
Qui seront les moteurs? Parce que c'est vrai que si vous faites le parallèle avec l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a des pays moteurs de l'Union européenne. La France, évidemment, l'Allemagne. Alors, évidemment, on compte sur l'Afrique du Sud par, je dirais, une conjonction des moyens sud-africains et nigérians pour pouvoir, je veux dire, avancer ce nouvel espace. Mais est-ce que, je veux dire, quand on se penche sur les économies sud-africaines et nigérianes, ces deux pays n'ont pas les moyens, je dirais, de financer à eux seuls, je veux dire, tous les mécanismes qui permettraient d'harmoniser les économies ou en tout cas de mettre en place cet espace, parce qu'il faudra ensuite, construire l'espace avant de le mettre en route. Absolument. Et pour cela, il faudra des capitaux très importants. Je méfie un peu, je dirais, de l'enthousiasme suscité à Bruxelles depuis quelque temps par la création de l'ASLEC. Quand on sait aujourd'hui la dépendance extraordinaire de l'Union africaine à l'égard de l'Union européenne notamment, il ne faudrait pas qu'on reproduise de nouvelles dépendances avec l'ASLEC et que le moment venu qu'on fasse à nouveau appel à des partenaires extérieurs, le mot est magique, pour financer à nouveau cet espace-là.
Justement, la Virginade, un dernier mot sur cette...
Alors, il est intéressant de constater que les deux poids lourds économiques du continent, que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont une vision totalement opposé concernant cet accord. On a dit l'Afrique du Sud est fervent défenseur de cet accord. L'Afrique du Sud considère que les économies africaines sont trop petites et ne peuvent se diversifier seules et donc ont besoin de s'unir. En revanche, le Nigeria, et on l'a tous remarqué, l'absence de ce pays à Kigali, ce pays est face à des pressions, de fortes pressions, notamment des syndicats et des puissants lobbies industriels. Et concernant les syndicats, vous parlez de libre circulation des personnes. Les syndicats anticipent déjà la libre circulation des travailleurs, parce que ce qui fait peur aux syndicats nigérians, c'est justement la libre circulation des travailleurs qui menacerait les emplois nigérians.
Faut pas faire un mauvais procès à Bouhari de ne pas s'être rendu à Kigali, parce que il est aussi normal d'écouter son opinion intérieure,
ses
opérateurs nationaux.
Moi, le Bénin aussi n'a pas ratifié.
Je sais pas pour quelle raison. En tout cas, on connaît les raisons pour lesquelles Bouhari ne s'est pas déplacé, parce que les pressions des opérateurs nigérians sont, je veux dire, tout à fait manifestes. Voilà. Donc, il est normal qu'un chef d'État prenne aussi en compte son opinion intérieure.
Et c'est l'attitude la plus réaliste, il me semble, à ce stade.
Et la plus démocratique.
Oui.
En 2014, il avait fallu attendre 2 jours de vote pour atteindre un taux de participation de 47%. Pour le second mandat d'Abdel Fattah al-Sissi, le scrutin s'est déroulé sur 3 jours, mais le taux de participation n'est que de 40%. C'est malgré tout une victoire écrasante, mais sans surprise pour al-Sissi, puisqu'il obtient 92% des suffrages. Face à lui, Moussa Mostafa Moussa était plus un faire-valoir qu'un opposant. Après avoir écarté les frères musulmans, al-Sissi a, en 4 ans, réussi à éliminer toute opposition politique à Hassan Diop.
Oui, en effet, voilà. Bah, écoutez, on est au pays des pharaons. Forcément, un résultat d'une présidentielle pharaonique pour al-Sissi. Et il faut comprendre que aujourd'hui, voilà, c'est le retour à la case départ en Égypte. Oui. C'est-à-dire que on a chassé Moubarak en 2013, il y a eu l'intermède du pouvoir islamiste avec les travers, les dérives que l'on connaît, des dérives sérieusement antidémocratiques, sérieusement dictatoriales, sérieusement à l'encontre des notions d'état de droit et de liberté, puisque la seule référence qui prévalait, c'était la charia, etc. Donc, retour de bâton, et c'est le maréchal al-Sissi, avec son bâton de maréchal, qui dirige le pays. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une importante fraction, même s'il y a eu que 40% de taux de participation et que ce scrutin s'est déroulé sur 3 jours, on a brandi la menace de sanctions pécuniaires.
Les abstentionnistes.
Les abstentionnistes, etc., etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, peut-être pas pour parler de pays réels, en tout cas, il faut peut-être parler de pays actifs. Une bonne partie de la classe moyenne égyptienne, une bonne partie aussi des intellectuels, de la bourgeoisie, peut-être moins les jeunes, ont voté pour al-Sissi, parce que c'est le garant d'une certaine stabilité. Il faut aussi dire que ceux qui approuvaient cette fameuse révolution dans les pays arabes, au Proche-Orient et ailleurs, les pays occidentaux, aujourd'hui soutiennent al-Sissi, parce qu'ils estiment que c'est le seul à même...
C'est le seul rempart contre l'islamisme.
Contre l'islamisme, et c'est le seul rempart contre le terrorisme. On a presque envie de dire que finalement, que les terroristes qui aujourd'hui... sont dans le Sinaï où multiplient les attaques, les attentats, etc., sont des alliés objectifs d'Al-Sissi, tout simplement parce qu'il leur mène une guerre impitoyable. Mmh. Résultat, pardonnez-moi, 60 000 personnes arrêtées depuis 2013, 3 000 disparues, mais aucun des pays occidentaux aujourd'hui ne fait cas, malheureusement, de ces dérives à l'encontre des droits de l'homme.
Mmh. Francis Azoupo, oui, carte blanche pour Al-Sissi, alors.
C'est un grand ami des Occidentaux, parce que voilà, on est à une époque aujourd'hui où on tolère, je dirais, l'émergence de nouvelles autochraties. On peut le dire pour la Russie, hein, ça choque personne. On peut le dire effectivement pour al-Sissi. On ferme les yeux également sur la Turquie, on fait avec. Donc je dirais que ce qui était cette espèce, je dirais, de principe convergent dans les années 80-90, qu'on appelait démocratie, ce principe est en train simplement de reculer, parce qu'aujourd'hui, on met en avant évidemment la priorité à l'économie, par exemple. Voilà, c'est l'économie qui compte, c'est pas forcément ce critère démocratique. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme, ces critères deviennent des critères aujourd'hui qui permettent, je dirais, de supporter, d'admettre ce qui, il y a encore une dizaine d'années ou quinzaine d'années, était intolérable, c'est-à-dire la dérive autocratique. Et al-Sissi s'inscrit dans, je dirais, dans cette époque-là, il s'inscrit, je dirais, dans cette faille aujourd'hui, cette faille qui est une vraie menace, je dirais, pour les libertés publiques, pour les libertés, pour le respect des droits humains. Parce que les droits humains deviennent, je dirais, un facteur secondaire dans l'appréciation de la gestion des États. Alors je voulais revenir juste, si vous permettez quand même, sur cette caricature d'élection, parce que ce n'est pas rien quand même. Hassan parlait de score pharaonique, et il a tout à fait raison. 92%. On pourrait presque féliciter al-Sissi d'avoir fait l'effort de ne pas aller à 100%, parce qu'il y a en 2014,
c'était... Il perd 4 mois.
Par rapport à 2014, c'était 97%. 40% de participation, c'est plutôt faible, malgré les incitations. Il faut quand même ajouter à ce que disait Hassan, que on offrait même des repas gratuits et des collations, je dirais, à l'entrée des bureaux de vote pendant 3 jours.
3 jours, c'est inédit quand
voilà.
même.
Et à l'arrivée, il y a quand même ce score qui, au fond, confirme ce qui s'est passé depuis 2013, depuis le coup d'État. Meilleur ami des Occidentaux, parce que vous vous souvenez, à l'époque, les États-Unis disaient que ce n'était pas un coup d'État. On avait décrété qu'un coup d'État n'en était pas un, parce que celui-là était admissible par rapport à la manière dont on concevait le monde aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, à partir du moment où on chassait un frère musulman du pouvoir, il était normal. On a vu ce que ça a coûté à l'Algérie il y a quelques années, hein, en 93, évidemment, c'est ce genre de raisonnement. Alors, al-Sissi, pour finir, n'est que l'homme de la restauration. qui a restauré les avantages de l'armée, les avantages au fond qui préexistaient à la révolution de 2011. Et aujourd'hui, on se pose simplement la question de savoir à quoi aura servi la révolution en Égypte. Al-Sisi, c'est l'homme de la contre-révolution, c'est l'homme de la restauration. Et Moubarak doit bien sourire là où il se trouve aujourd'hui en observant l'état de son pays, parce que finalement, on a rétabli ce qui est, je dirais, cette Égypte constante, la même qu'on connaît depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'Égypte militaire, même si Al-Sisi s'est débarrassé, je dirais, de sa tenue de maréchal.
Nadir Djenad, quel programme pour ce second mandat au général Al-Sisi?
Je dirais qu'il y a trois défis majeurs pour le général El-Sissi aujourd'hui. Tout d'abord, c'est regagner la confiance populaire, parce que malgré ce qu'on peut dire, le taux de participation est quand même très bas, 40%. Même s'il continue à être soutenu par des élites, par les milieux financiers, il y a quand même un désamour d'El-Sissi de la part d'une partie des Égyptiens, et notamment des jeunes qui étaient très actifs, par exemple, pendant la Révolution, qui ont eu très peur de l'accession au pouvoir des Frères musulmans et de Mohamed Morsi, et qui se sont dit finalement avec El-Sissi, c'est finalement pas plus mal, c'est mieux que les Frères musulmans au pouvoir. Et il y a aussi la dérive autoritaire du régime qui s'est accentuée ces dernières années, qui ont quand même créé une sorte de désamour d'une partie du peuple égyptien. Deuxième chose, c'est l'économie, parce que la situation économique du pays est quand même désastreuse. Le pays a souffert de la dévaluation de sa monnaie, a souffert aussi de la baisse du tourisme en raison des attentats terroristes qui ont frappé le pays ces dernières années. Donc ça, c'est très inquiétant. On sait que les révolutions débutent souvent par l'économique, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de pain, quand il n'y a plus de blé, les gens se soulèvent et on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. Et le dernier point, c'est bien sûr la sécurité. Le pays reste frappé par des attentats, notamment dans le Sinaï, des attentats qui touchent à la fois les militaires, les policiers, mais aussi le peuple égyptien, d'autres catégories comme les Coptes, par exemple. Et je finirai une dernière chose concernant l'Égypte, le régime, le meilleur ami des Occidentaux. Je dirais même, de plus en plus, le meilleur ami de la France. La France est devenue aujourd'hui officiellement le premier fournisseur d'armes à l'Égypte. Lors des opérations militaires dans le Sinaï, l'armée égyptienne a utilisé abondamment le matériel français, notamment des blindés. Donc de plus en plus, le meilleur ami de la France aujourd'hui.
Juste ajouter aussi que ce régime est quand même fondé sur un mensonge initial, parce que Al-Sisi était venu pour écarter Mohamed Morsi à l'époque, parce que évidemment on lui reprochait cette dérive dictatoriale
et aussi
les actes liberticides qui étaient posés à l'époque par Mohamed Morsi, notamment au nom de la religion. Mais aujourd'hui, au fond, ce régime, au fond, c'est une synthèse douteuse entre d'un côté un discours qui est servi, je dirais, aux partenaires extérieurs, discours de tolérance, discours de respect des droits humains, etc. Mais en interne, au fond, Al-Sisi est en train de rétablir, de faire, je dirais, un clin d'œil très appuyé à la frange la plus rigoriste et la plus obscurantiste du pays. Je ne retenais qu'un exemple, c'est cette loi qui a été introduite cette année contre l'athéisme. On vous sanctionne parce que vous ne croyez pas en Dieu. C'est quand même extraordinaire. C'est symbolique, je dirais, de cette espèce comme ça d'association discrète et sournoise que ce régime établit avec ceux qu'il était censé combattre.
Et c'est très intéressant d'ailleurs ce que dit Francis, parce que c'était une constante du pouvoir égyptien. Rappelez-vous Sadat. Sadat avait fait la même chose aussi. C'était allié avec les forces les plus conservatrices du pays, avec les Frères musulmans, avait réislamisé la société égyptienne. Moubarak l'a fait aussi.
Sisi les a combattus.
Avant de sortir le bâton. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et la présence d'Al-Sisi quand même au pouvoir après Morsi, c'est aussi, il faut le noter, je dirais, peut-être une certaine forme d'indigence, entre guillemets, de ce qu'on appelle les acteurs politiques de la société civile. On a vu un défilé de leaders providentiels, que ce soit Mohamed El-Baradei, que ce soit l'ancien patron de la Ligue arabe, ministre des Affaires étrangères, Amr Moussa, etc., etc. Et finalement, on s'est rendu compte que ces messieurs étaient dépassés, si j'ose dire, par les événements.
Mais ils ont été quand même contraints de retirer leur candidature certains d'entre eux.
Oui, enfin contraints, oui, mais en même temps, je crois, comme on le souligne d'ailleurs de plus en plus, c'est qu'on est dans un monde où finalement le sentiment qui prévaut, en tout cas dans certaines régions du monde, c'est qu'il faut des leaders, il faut des dirigeants purs et durs pour conduire les pays, des dirigeants forts, que ce soit soit Xi Jinping, que ce soit Al-Sisi ou que ce soit d'autres dirigeants ailleurs.
Ce sera le mot de la fin. Avant de refermer ce magazine, nous tenions à rendre hommage à Mamadou Diop, disparu cette semaine à l'âge de 82 ans. Cet officier supérieur, grande figure du Parti Socialiste Sénégalais, fut ministre des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Il avait dirigé la mairie de Dakar de 1984 à 2001. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à San Diop de Radio France Internationale, à Francis Laloupeau d'Africa numéro 1 et à Nadir Djennad de l'agence Reuters. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique.